Ces 12 prophètes. Ces 12 prophètes qu'on appelle des petits prophètes, avec un petit qui pourrait paraître péjoratif, c'est pas
Petit
sûr.
profil,
On met
un petit
les
seul
bons onguents
profil.
dans les petits pots, c'est pas sûr, mais enfin quand même. Pourquoi on les appelle petits, vous le savez, c'est à cause de leur taille. Ça va de 21 versets chez Abdias à 13 chapitres chez Osée. C'est très peu par rapport aux 66 chapitres d'Isaïe, aux 52 chapitres de Jérémie, etc. On les appelle plutôt les 12, ou les 12 petits prophètes, les 12. En même temps, ces 12 prophètes, dans le décompte de la Bible hébraïque, alors il faut que j'arrive à dérouler mon PowerPoint. Pourquoi il ne veut pas avancer? Si, next. Voilà. Dans le décompte de la Bible hébraïque, ils forment un seul livre. Il y a 22 livres dans ce qu'on appelle le Tanakh, c'est-à-dire la Bible hébraïque. Eh bien, les 12 petits prophètes, ces 12 brefs prophètes, forment un seul livre. Et dans la traduction grecque, dont on a retrouvé dans le désert de Juda des fragments d'un rouleau, ce rouleau s'appelle le dodécaprophéton. Donc, vous voyez, c'est toujours considéré comme un seul livre, avec évidemment le problème posé aussitôt, est-ce qu'il y a une unité entre ces 12 textes? Alors, certainement pas une unité d'auteur, une unité thématique, eh ben, c'est le sujet du dernier cahier évangile sur la question, le cahier 203 de Donatella Scaiola et Elena Di Pede, qui se pose la question, lire les 12 petits prophètes comme un seul livre. Et si vous lisez le cahier évangile, vous aurez plein de richesses, mais vous n'aurez pas de réponse. Voilà. Vous n'aurez pas la réponse. Évidemment, il y a des thématiques qui se recoupent. Moi, ce que je trouve surtout intéressant, c'est que c'est une introduction à la lecture des grands prophètes. Comme ils sont courts, finalement, ils condensent pas mal de thèmes qu'on retrouvera après développés, ou avant, hein, ce n'est pas une question de date, mais qu'on retrouve développés chez Isaïe, chez Jérémie, voire chez Ézéchiel. Donc, ça vous donne, sous forme, j'allais dire, condensée et raccourcie, une entrée dans les grands prophètes. En plus, chacun, on va y passer un petit moment, chacun de ces prophètes, ou en tout cas la plupart d'entre eux, comportent à l'intérieur même de leur texte, et le texte peut être court, les 9 chapitres d'Amos, des relectures et des réécritures. On voit que le même texte ou les mêmes oracles ont été repris, repensés, réactualisés plus tard. Donc, on va retrouver dans certains prophètes, en petit, en minuscule, en petit modèle, je veux dire en modèle miniature, ce qu'on trouve par exemple dans le livre d'Isaïe, avec 3 ou 4 moments, 3 grands moments de l'histoire d'Israël. Bien, vous le savez, on en avait déjà parlé, je crois, l'année dernière en vous présentant la Bible, dans le livre d'Amos, qui est un magnifique livre des prophètes, vous ne le travaillerez pas, mais vous le lirez bien sûr. Dans le livre d'Amos, vous avez 9 chapitres et demi pour dire c'est trop tard, la catastrophe va arriver. Voilà. Peut-être, 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 qui sait, Dieu pourrait intervenir, mais en fait, il n'interviendra pas, c'est trop tard, et ça se termine. Voici les yeux du Seigneur mon Dieu sur le royaume coupable, je vais l'exterminer de la surface de la terre, c'est par l'épée que vont mourir les coupables de mon peuple. C'est pas gai. Ça, c'est le verset 10 du chapitre 9. Et puis, à la suite, vous avez 5 versets qui commencent par « Ce jour-là, je relèverai la hutte croulante de David, je la relèverai comme au jour d'autrefois, je leur donnerai des terres, ils vont planter, ils mangeront des produits de leur terre, ils boiront le produit de leur vigne, je les planterai sur leur terre, ils n'en seront plus jamais chassés. » En 5 versets, tout ce qui est dit avant est balayé par un oracle de restauration. Il est évident qu'il a passé du temps entre la plus grosse partie du livre, même si elle a été aussi retravaillée, et ses 5 derniers versets. La plus grosse partie du livre s'adresse au royaume du Nord, on va en reparler, etc., vers autour de 730, 720 avant Jésus-Christ. Les 5 versets ne peuvent avoir été écrits qu'à la fin de l'exil, vers 530, 520, c'est-à-dire 200 ans après. Dans le même prophète, voilà, vous avez toute une histoire qui se déploie. Alors, chacun de ces petits prophètes reflète donc divers aspects de l'histoire d'Israël et dans cette histoire de la relation de Dieu à son peuple. Une sorte de miroir multiforme de l'aventure d'Israël au cours des siècles, et dans l'éclairage constant d'une relation houleuse, difficile, avec des menaces, des moments même de silence où Dieu est tellement écœuré qu'il se tait et où le prophète appelle au silence, mais finalement une relation qui n'est jamais interrompue. Voilà. Et ce que nous disent ces prophètes, c'est que au cours des turbulences de l'histoire, que ce soit des moments de prospérité, il y en a quand même, des moments heureux et surtout des moments tragiques, Dieu n'a cessé d'accompagner son peuple, d'accompagner les hommes. Il ne cesse, par la voix de ses prophètes, d'interpeller, de dénoncer, de se mettre en colère, de fustiger. Mais au fond, il n'abandonne jamais. C'est ça le grand leçon. Il n'abandonne pas, Dieu continue.
Mais qu'est-ce que c'était celui-là?
Alors, c'est ça le thème, je crois, fédérateur et central, enfin un peu unificateur de ces 12 prophètes et des autres, c'est bien la présence de Dieu à son peuple dans une diversité de situations et donc avec une diversité de figures. Et moi, ce que je voudrais, c'est que vous
Bien
orientiez
pourquoi le comité
votre travail, puisque
là.
vous allez lire non pas tous les prophètes, enfin que vous allez les lire, mais vous allez travailler quelques textes. Vous orientez votre travail sur une attention à cette diversité du même Dieu, qui est le Dieu qui accompagne, le Dieu avec nous, mais dont le visage n'apparaît qu'à travers le prisme de l'histoire. Voilà. Il n'apparaît jamais qu'à travers des situations. Il n'y a jamais de révélation de Dieu en soi. Vous n'avez jamais un catéchisme, vous n'avez jamais la doctrine, vous n'avez jamais le credo de Nicée-Constantinople. Vous avez des figures de Dieu accompagnant l'histoire, et dans la mesure seulement où les êtres humains sont capables d'en accueillir et d'en dire quelque chose. Donc ça sera toujours un point de vue limité, qui parfois pourra vous scandaliser, mais il faut voir qu'il y a des situations de l'histoire où on a une vision de Dieu qui n'est pas la même, qui parfois vous paraîtra merveilleuse, ça change. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont toujours des aspects différents du même Dieu, dans la mesure où les hommes aperçoivent et nous en livrent quelque chose. Voilà. Alors, pour essayer de parler de ça, je vais avoir quatre parties. La première, assez rapide, pour situer justement les choses dans l'histoire et puis les livres. Ensuite, je parlerai du prophète. Ensuite, des figures de Dieu. Et ensuite, du thème un peu majeur, qui est un peu le plus difficile, celui du jour du Seigneur. Voilà. Donc, quatre thèmes que vous allez retrouver. Alors, d'abord, ces prophètes dans l'histoire sont comme des balises. On a parfois dit que les 12 prophètes pouvaient d'une certaine façon résumer le grand message de Dieu au peuple d'Israël. Il y a un temps du péché, de la dénonciation du péché et l'appel à la conversion. Ça serait plutôt Amos, Osée et Jérémie. Il y a le temps du malheur et du silence, qui est aussi le temps de l'espérance, plutôt le 7e siècle, vers l'exil, si vous voulez, le moment de la prise de Jérusalem, Nahum, Habacuc, Sophonie, Abdias. Et puis le temps de la consolation et de la restauration après l'exil. Consolation et restauration qui, bien sûr, vont pas être immédiates et qui vont pas non plus être parfaitement sereines. Les mêmes problèmes vont se reposer. Au-dessus de tout ça, comme un peu comme un chapeau, on a deux prophètes, Joël et Jonas, qui sont certainement assez tardifs, mais qui sont l'un et l'autre une prise de distance et un peu un résumé de tout l'enseignement prophétique. J'en reparlerai. Voilà. En fait, si vous voulez bien, on pourrait dire de façon plus sûre que ces prophètes balisent, et les grands avec, essentiellement les crises de l'histoire d'Israël. Alors vous pourriez dire, ils sont vraiment pas drôles, les prophètes. Pourquoi est-ce qu'ils parlent pas dans les périodes heureuses? Alors c'est vrai que chez les peuples, les prophètes sont souvent des prophètes de malheur. Cassandre, chez les Grecs, elle annonçait toujours des malheurs, la pauvre dame. Les prophètes d'Israël, c'est un peu comme ça, pas toujours. Est-ce que c'est parce qu'aussi on a retenu, au fond, les choses importantes dans les moments tragiques de l'histoire? C'est les moments où on en a besoin qu'on se met à l'écoute des prophètes. Et ce qu'on retient des prophètes, c'est leurs interventions dans les moments où tout s'ébranle. Du coup, là, on peut à peu près voir une espèce de progression avec le bémol que j'ai dit tout à l'heure. Chaque prophète peut traverser l'histoire. Mais quand même, en gros, on peut dire qu'il y a des prophètes qui se situent au moment de la chute de Samarie avec le fait que l'empire, en tout cas le royaume assyrien, vient manger et faire disparaître la partie nord, le royaume du nord, qu'on appelait Israël, et tomber la ville capitale Samarie en 721. Et ça, c'est suivi de ce que déjà les Assyriens avaient commencé à faire, une véritable déportation. C'est-à-dire que ce n'est pas l'exil, la déportation, c'est tout le monde qui s'en va. On change la population. C'était une pratique assyrienne. Staline en Crimée, il n'a rien inventé. On enlève la population, on l'installe ailleurs, on en met une autre, on a la paix pour au moins une ou deux générations. Voilà. Là, ce sont les prophètes Amos et Osée qui voient arriver ça et qui le dénoncent. Deuxième moment de trouble majeur, c'est dans le royaume du sud maintenant, donc ce qu'on appelle Juda, le petit royaume autour de Jérusalem, la dynastie de David, le siège de Jérusalem en 701, dont parle aussi bien sûr Isaïe, avec Michée, et ce siège s'est terminé heureusement, parce que l'ennemi, l'Assyrien, a levé le siège et que Jérusalem a été sauvée. Voilà, mais Michée en témoigne. Un siècle, pas un siècle plus tard, mais 90 ans plus tard, le prophète Nahoum va parler de la chute de la grande ville Ninive, qui est la capitale de la Syrie, comme d'un grand moment d'espérance. En fait, ça va être aussi un moment de changement d'empire. C'est les Babyloniens qui prennent le pouvoir et ça va être un moment, au fond, qui va se transformer en désespoir parce que les Babyloniens vont venir attaquer le royaume du Sud. Et 10 ans après, ou 12 ans après, sur une dizaine d'années, 598-588, Jérusalem va tomber. Avec l'exil, et ça, les prophètes de cette période-là, évidemment, c'est Jérémie, mais pour nous, c'est Abdias, Habacuc et Sophonie. Et ensuite, on saute, environ 460 ou 80 ans après, le retour d'exil, avec Agé, Zacharie, Malachie, et puis les deux dont je vous ai dit qu'ils étaient un peu à part, Joël et Jonas. Voilà. Ça, c'est pour vous ayez un peu. Il faut avoir en tête un peu les dates, vous l'aurez sur votre papier, les dates de l'histoire, parce que les oracles prophétiques sont très fortement liés à des situations historiques. Il ne faut jamais les lire. Alors, bien sûr qu'ils résonnent aujourd'hui, mais ils résonnent aujourd'hui parce qu'on ouvre le journal. On ouvre le journal et en lisant les petits prophètes, on se dit, tiens, alors là, on est en plein dedans. Et voilà, parce qu'on est dans des périodes aussi troublées. Mais il faut vraiment se dire, ce sont des paroles, ce sont des interventions qui sont dans des contextes historiques donnés et qui résonnent dans ce contexte-là, pas nécessairement dans un autre, mais en tout cas autrement dans un autre. Voilà, ça, je vous alerte là-dessus. Après, maintenant, l'ordre des livres. Là, je n'ai pas grand-chose à dire, vous aurez le papier. Si vous changez de Bible, il peut arriver, ce n'est pas toujours vrai, qu'on ait des variations dans l'ordre des prophètes, surtout dans l'ordre des 6 premiers. Voilà, les 6 derniers sont plus stables. La seule chose qui est importante, c'est quel que soit l'ordre, parce que le texte grec n'a pas exactement le même ordre que le texte hébreu, quel que soit l'ordre adopté, il y a Osée au début. Et Osée, c'est en 740, 30, 25, peu importe. 8e siècle avant Jésus-Christ, la fin du 8e siècle, la figure incroyable d'un Dieu amoureux de son peuple. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont osé aller aussi loin que Osée, 8 siècles avant Jésus-Christ. Et ça, c'est la réponse à tous ceux qui vous disent, oh, le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu vengeur, heureusement qu'on a le Dieu d'amour dans le Nouveau Testament. Eh bien, cela, il faut leur répondre, zéro pointé, vous vous trompez complètement. Le Dieu amoureux et qui pardonne tout, c'est d'abord le Dieu d'Osée. Et c'est lui qui ouvre la série des 12 prophètes. À la fin, on a toujours, qui ferme la série, le prophète Malachie. Le prophète Malachie, parce que Malachie, c'est au moment du retour, et parce que ça se passe mal un peu après, faut relancer l'espérance, et parce qu'on a, au fond, un peu perdu l'espoir. On a même perdu l'espoir d'une dynastie davidique et d'un retour à un royaume libre et prospère. Ce qu'on annonce, c'est vraiment la venue proche du Seigneur, avec Élie qui va venir préparer les chemins du Seigneur. Ça, c'est le dernier des prophètes de l'Ancien Testament. Et alors après, si vous êtes chrétien, vous ouvrez le Nouveau Testament avec le texte de Matthieu ou de Marc, comme l'a dit le prophète. Préparer la voix retentit dans le désert, préparer les chemins du Seigneur. Jean-Baptiste, évidemment repris comme la figure d'Élie annoncée par Malachie pour préparer les chemins du Seigneur. Et le Seigneur, maintenant, c'est Jésus qui sera le Christ. Vous voyez le passage qui est bien sûr aménagé surtout par le texte grec, puisque lui, il a été repris et mis en ordre par les chrétiens, puisque c'est l'Ancien Testament des chrétiens. Voilà. Donc, Osée au début, Malachie à la fin, et les plus marquants peut-être dans les six premiers, avec le fait que dans les six derniers, vous avez d'une part ce livre de Joël, qui est un peu un résumé de toute le processus de la prophétie, la menace avec les criquets, c'est magnifique le début du livre de Joël, avec les essaims de sauterelles successives qui viennent dévaster le pays. Ce que la sauterelle a laissé, le criquet l'a détruit. Ce que le criquet a laissé, le faucheux l'a détruit. Voilà, c'est un rappel des plaies d'Égypte, mais cette fois-ci sur le peuple qui est en train de disparaître. Un appel à la conversion, une liturgie pénitentielle, un appel au repentir, une liturgie pénitentielle, l'affirmation de la miséricorde de Dieu, peut-être viendra-t-il sauver son peuple, hein? Et au fond, il est lent à la colère, il est plein d'amour, il se repent du mal, il reviendra et il laissera peut-être derrière lui une bénédiction. Et finalement, un jugement eschatologique pour les ennemis et les peuples hostiles à Dieu. Le livre de Jonas, lui, et j'en dirai un mot à la fin et vous terminerez sur le livre de Jonas, c'est l'humour de Dieu. On met en question la figure du prophète et on met en question, au fond, la figure que nous nous faisons tous, toutes les représentations que nous nous faisons de Dieu. Voilà. Alors, si vous voulez bien, bon, les voilà, dans un ordre très traditionnel. Si vous voulez bien, je
Attends,
passe à un
écrivez.
second temps, qui est le rôle du
La droite,
prophète et
c'est
sa
Dieu.
liberté.
Donc c'est à
Parce
droite.
que souvent,
Après, il y a autre chose.
j'entends dire, mais enfin, le prophète, quelle liberté a-t-il? Il est pris entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire entre la parole de Dieu et la réalité des puissants qui n'en veulent pas ou du peuple qui n'en veut pas, et il n'a plus qu'à mourir entre les deux. Or, je crois qu'on peut réinterpréter ça, relire ça en disant non, le prophète, il est pris entre le consentement au malheur qui arrive et l'espérance à maintenir à tout prix. Voilà, l'espérance à maintenir à tout prix. Alors, d'abord, un petit retour sur ce que c'est que le prophète. Le prophète, c'est celui qui parle pour Dieu. Ça n'est pas Madame Soleil. Le prophète n'annonce jamais l'avenir. Il annonce que ça va aller mal, mais parce que c'est visible à l'œil nu que ça va aller mal. Donc, c'est assez facile. Le prophète, c'est celui qui parle pour Dieu. Abdias le dit très bien, hein? Un héros, un message, nous l'entendons. Il vient du Seigneur. Un héros est envoyé parmi les nations. C'est un homme qui va être aux prises avec, voilà, la parole de Dieu et qui va lui-même prendre la parole avec la question, ben, quelle est sa liberté dans cette emprise de la parole divine et la menace des puissants ou le malheur des peuples. Le prophète a été aussi, et il reste quand même très clairement dans les prophètes des 12, un homme, un visionnaire. Il n'y a pas seulement la parole dans le prophète, mais il y a la vision. Dans un certain nombre de textes qui sont plutôt dans les livres de Samuel et des rois, mais aussi parmi les prophètes eux-mêmes, le prophète est appelé un voyant. Le prophète, c'est un voyant. Vous ouvrez le livre d'Amos et vous avez cette expression très étrange qu'il faut méditer. Parole d'Amos, parole dont il eut la vision. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a eu la vision du parole? Alors, on voit qu'il y a une expérience, je ne vais pas rentrer longtemps là-dedans, mais il y a des études sur la psychologie ou la, je sais pas quoi, du prophète, parole et vision, il y a des expériences fortes que le prophète considère comme des visions dont il rencontre par la parole et qui aussi l'invite à parler et il va expliciter sa vision. Ça va? Voilà, une vision dont il rencontre par la parole. La vision elle-même est parlante parce qu'elle fait. Elle frappe et en même temps elle invite à parler parce qu'il faut l'expliciter. Et la parole elle-même va faire image. Et de plus en plus, les prophètes vont être conscients et exprimer que ils explicitent ce qu'ils ont vu dans une vision. Voilà, vous avez Amos au 8e siècle, paroles d'Amos ont-ils eu la vision? Habacuc, un bon siècle après, proclamation dont fut chargé Habacuc dans une vision. Vous voyez, il a été chargé dans une vision de parler. On avance dans une espèce de rationalisation de l'affaire. Et ce qu'on lui dit, ce qu'il entend, c'est écris une vision, donne-en l'explication sur des tables afin qu'on les lise. C'est la même époque que Jérémie, c'est le moment où l'oracle, la parole, va se mettre par écrit et va devenir plus durable. Alors ces visions, il faudra que vous les interrogiez. On en a cinq dans le livre d'Amos, huit dans le livre de Zacharie, mais il y a l'idée tout au long de ces oracles qui sont souvent très visuels ou qui frappent ou qui explicitent une vision. Avec l'idée aussi que peut-être l'écrit va demeurer. Le troisième point que je veux aborder dans cette essayer d'exprimer ce que fait le prophète, c'est que cette parole de Dieu dont le prophète est en charge, elle va passer par sa parole humaine. Et donc le prophète, c'est un auteur, c'est quelqu'un qui est aussi un poète, puisqu'il donne une vision, il a aussi des images, il explicite. Voilà. Le prophète est un poète, donc il met sa propre patte, son propre style dans l'oracle. Et en même temps, il y a une espèce de tiraillement dans la, comment j'allais dire, dans le, la, pas la personnalité, mais la mise par le travail de mise en parole des choses, c'est que, au fond, cette parole de Dieu, il la conçoit comme une charge. C'est dit, les derniers prophètes parlent de charge, Nassa, qu'il doit, le prophète, et ça Jérémie le dit beaucoup, mais les autres aussi, Osée, Amos, que l'être humain doit s'approprier, s'assimiler, et Jérémie dit que la parole de Dieu le brûle intérieurement, voilà, ça, quand il ne veut pas la dire, ça brûle et ça sort. En même temps, il ne doit pas mettre la main dessus. C'est-à-dire, et ça c'est intéressant, et c'est pour ça qu'on a parlé d'inspiration. Bien sûr qu'il parle avec son style, avec ses images, mais il a l'impression, le sentiment, ce que vous voulez, que c'est une parole qui le dépasse. Il écrit avec son propre style, avec ses images, une parole dont en même temps il sent bien qu'elle le dépasse. Ça prend souvent, c'est mon quatrième point, la forme d'un dialogue. Un dialogue direct ou rapporté. Puisque normalement, le prophète parle au nom du Seigneur, vous avez les incises, ainsi parle le Seigneur, ou bien fait parler le Seigneur lui-même, et c'est l'incise oracle du Seigneur. En même temps, il prend la parole en jeu. Et je viens de vous dire, il a son style, il a aussi ses propres remarques. Bien sûr, il partage la dénonciation que Dieu fait de la méchanceté du peuple, de la cruauté, et avec le Seigneur, il voit la menace s'approcher. Mais il faut, je crois, se poser souvent la question, mais qui parle vraiment ici? Alors j'essaye de vous donner des exemples. Parce que ce n'est pas seulement une affaire à deux, le prophète et le Seigneur, qui donc il habite et qui le fait parler, et à qui en même temps il parle dans un dialogue. Il y a un tiers, et le tiers, c'est ceux à qui la parole prophétique s'adresse. Il y a un destinataire, si vous voulez. Alors, ce destinataire, qui est-il? Les grands, les puissants, c'est aussi le peuple. Ça prend souvent la figure de Israël ou de Jérusalem dans le royaume du sud, la ville, voilà, à qui il s'adresse. Le prophète s'adresse, ou Dieu par lui, par sa voix, s'adresse à ce destinataire, mais le destinataire prend aussi la parole parfois. Et c'est aussi compliqué parce que le prophète, il est des deux côtés. Il est du côté de celui qui parle au nom de Dieu ou en son propre nom. Il est aussi du côté de ceux qui reçoivent le message sur la tête. Voilà. Parce qu'il est chargé de délivrer une parole cruelle à un peuple dont il fait partie et qu'il aime, dont il partage les malheurs et les souffrances. Dont il partage les malheurs et les souffrances. Alors on a des choses extraordinaires. On a ce passage de Amos où le Seigneur, le prophète à un moment donné appelle, j'ai dit, Seigneur, arrête, je t'en prie. Comment Jacob subsisterait-il? Il est si petit. Cette espèce de C'est très émouvant, cette espèce de tendresse du prophète pour le petit peuple qui est en train d'être accablé, qui va être écrasé. Et donc, il appelle. Non, ce n'est pas le peuple d'Israël, c'est le peuple du Nord. Et il appelle. Enfin, il demande au Seigneur d'arrêter tout ça. Voilà. Donc, il intervient là entre le Seigneur et le peuple. Il intervient aussi dans les moments où, de joie et où il fait participer le peuple et participe avec le peuple à la joie du Seigneur lui-même. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, n'aie pas peur, Sion, ne faiblis pas. Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi, en héros. Il est tout joyeux à cause de toi. Il jubile et dans la joie, il y a même des gens qui traduisent et danse de joie à cause de toi. Voilà, vous serez attentif au fait que les voix s'entremêlent. C'est pas facile les prophètes parce qu'on a l'impression que tout d'un coup ils sautent du coq à l'âne, mais parce qu'il y a plusieurs voix qui s'entremêlent et ça fait une symphonie parfois un peu discordante, parfois harmonieuse, avec par exemple la voix off qui dit « Cherchez le Seigneur, vous tous les humbles du pays, agissez selon le droit, cherchez la justice, cherchez l'humilité, peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère du Seigneur. » Et puis, ailleurs, le Seigneur lui-même qui parle à son peuple et qui se plaint. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Le Seigneur qui est épuisé, écœuré par la méchanceté du peuple. Parfois, on ouvre le journal et on se dit, mais Dieu doit être écœuré, il s'en va, il s'en va. Et c'est ce qui est dit dans certains prophètes. Le Seigneur se tait parce que c'est plus possible. Et puis, il rappelle ses bienfaits. Mon peuple, rappelle-toi donc. Alors là, vous continuez, vous suivez le texte, et tout d'un coup, vous avez la réponse du peuple. Sans prévenir, évidemment, c'est à vous d'aller détecter. Avec quoi me présenterai-je devant le Seigneur? Le Seigneur voudra-t-il des milliers de béliers, etc., etc. Et finalement, la voix off reprend le dessus et dit non, pas de sacrifice, pas de sacrifice, le Seigneur a besoin de rien. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bon, ce que le Seigneur exige de toi, rien d'autre que de respecter la justice, aimer la fidélité. Est appliqué à marcher avec ton Dieu. Vous voyez, là, il y a vraiment toutes ces voix dans ce petit passage de Michée, du verset 3 à 8 du chapitre 6, mais vous le travaillerez, qui s'entremêlent et un dialogue qui se noue. Le prophète lui-même, je crois qu'il faut vraiment le comprendre comme un homme déchiré. Il reçoit une parole de Dieu dont il reconnaît la justesse par sa propre lecture de la situation politique. C'est pour ça que lorsque les prophètes parlent en termes de châtiment, en fait, c'est parce qu'ils analysent la situation et se rendent compte qu'effectivement, le malheur va arriver. C'est des spectateurs lucides de la façon dont des gouvernants, des puissants, des riches sont en train de conduire leur pays à l'abîme. Et là, visiblement, à l'arrivée de la Syrie à qui on cède, et puis à la déportation. Lui-même, il est souvent rejeté, calomnié, et en plus, il est plongé dans la tourmente générale qu'il voit venir. Parce que la parole qu'il va prononcer, dont il est chargé, mais dont il a mesuré la justesse, décrit un avenir terrifiant. Il comprend que la catastrophe est inévitable. Voilà. La parole qu'il doit délivrer, ben, c'est vraiment le malheur dans lequel il voit le peuple et ses dirigeants se précipiter, et il va, lui, en souffrir avec les autres. Voilà, ça, j'ai un peu insisté, je suis un peu longue, mais je crois que c'est très important. Pour pas lire, j'allais dire, au premier degré, le Seigneur est méchant, il va vous punir parce que vous êtes vilain. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est vraiment, la catastrophe arrive et elle est la conséquence politique, stratégique, inévitable de votre mauvaise conduite. Voilà, ça je crois que c'est important pour éviter toute lecture trop facile et surtout, du coup, toute indignation qui serait au fond mauvaise compréhension. Bon, je finis avec ce prophète. Le prophète est tellement habité par cette parole de Dieu, donc il l'épouse, qu'il y a des actes prophétiques, c'est-à-dire que c'est la vie du prophète qui va, à des moments donnés, mimer le message qu'il a à délivrer. Alors, l'exemple célèbre, et vous le lirez, c'est Osée et sa femme infidèle, Gomère, qui s'en va pour se prostituer et que Dieu lui demande de reprendre, comme signe du pardon de Dieu à un peuple qu'il a toujours trompé, toujours trahi pour des idoles et des dieux de la nature. Où on voit bien que c'est assez fascinant, on ne sait pas exactement comment l'histoire s'est passée, jusqu'où tout ça s'est passé exactement comme ça, mais il y a bien l'idée que la vie amoureuse tourmentée du prophète mime, dit celle du Seigneur pour son peuple. Que quelque part, alors le mot est peut-être trop gros, ne le prenez pas comme une affirmation dogmatique, mais quelque part le prophète l'incarne. Il incarne l'amour du Seigneur pour son peuple. Il incarne la nécessité de tenir bon contre ceux qui ne veulent pas voir la vérité. Amos affronte le prêtre Amasia qui est de mèche avec le roi d'Israël qui veulent le chasser. Et il résiste, il résiste. Le Seigneur m'a pris derrière le bétail et m'a dit, va, prophétise à Israël, mon peuple. Et il ira jusqu'au moment où, devant l'incompréhension, le refus, le blocage de la situation, il finit par dire, on dira silence. On dira silence, c'est un temps de malheur. Inversement, vous avez dans cette tourmente le fait que le prophète, au fond, eh ben, va continuer. Après le silence, Amos reprend la parole. Et Michée, à mon avis, le résume très bien en disant, quant à moi, je guette le Seigneur, j'attends Dieu, mon Sauveur, il m'écoutera, mon Dieu. Il réouvre, au fond, toujours une voie, si une brèche, vers l'espérance. Bon, alors voilà, pour la Bible historiale de 1372 avec Osée et Gomère, ça a été très représenté de façon très, très humaine. Et c'est important, cette humanité de Dieu. Et ça pose la question, alors si vous voulez bien, c'est mon deuxième point ou mon troisième point, les figures de Dieu en question. Parce que voilà, là, quelque part, on a la figure de l'amour de Dieu. Quelles sont ces figures de Dieu qui sont partout chez ces prophètes, ce Dieu qui accompagne l'histoire humaine, que Isaïe appellera Dieu avec nous, c'est le nom que va prendre le roi, voilà, notre histoire avec Dieu. Alors, je souligne deux ou trois points. Le premier point, pour moi intéressant et difficile, ce sont les anthropomorphismes. Et là, on est en plein dedans. On l'a vu, le Dieu amoureux avec Osée. Le Dieu Père, un peu plus loin dans le même livre d'Osée, qui prend le peuple sur ses bras comme un enfant, hein, contre sa joue. Par ailleurs, le Dieu jaloux, le Dieu vengeur, le Dieu qui punit et qui décide de détruire tout, mais qui repent, se repent et revient sur sa décision. Puis après, il dira non, je ne me repens pas parce que moi, je ne suis pas un homme, je suis Dieu. Un Dieu qui à la fois nourrit et qui dévaste. Voilà, tellement dit avec des images et des caractéristiques, des attributs humains, qu'on se demande parfois dans le livre d'Osée, vous travaillerez le texte, s'il n'y a pas presque une confusion entre ce Dieu et ceux justement qui combat, les Baals, les dieux de la nature. Parce que les dieux de la nature, ce sont bien ceux qui donnent à manger, à boire, qui fournissent le lait, le miel, le pain, tout ce dont les vêtements, ce dont on a besoin pour la vie quotidienne. Et l'affirmation, c'est ce ne sont pas eux, c'est moi. Alors voilà, où passe la différence? Alors on peut toujours dire, et c'est vrai qu'il faut le dire, l'idole est faite de main d'homme, l'idole, elle est manipulable, et à l'opposé des idoles, Dieu, c'est lui qui se révèle, et qui se révèle à la mesure, évidemment, de ce que notre humanité peut en saisir, donc de façon, ben, avec des anthropomorphismes. Hein. Parce que nous ne pouvons pas saisir autrement Dieu qu'avec à notre mesure d'humain. Et ça sera vrai aussi pour sa justice. On va voir ça tout à l'heure. Il y a une raison profonde pour dire que ce Dieu se révèle de façon très humaine. C'est qu'il est lui-même, et c'est ça l'affirmation biblique, en quête d'un lien avec l'humain, en proposition d'alliance. C'est Dieu toujours qui relance la proposition, reprend le peuple infidèle, s'approche, choisit un porte-parole, s'approche toujours plus près. On voit bien que les textes du Nouveau Testament seront dans la droite ligne des prophètes. Parce qu'on a cette idée d'un Dieu proche, d'un Dieu avec, d'un Dieu qui il va finir par devenir homme. Alors vous avez dans le livre d'Amos la tension entre des figures extrêmement humaines de Dieu, amoureux, père, etc. Et en même temps, la distance, mon cœur est bouleversé en moi, ma pitié s'est émue, je ne donnerai pas cours à l'ardeur de ma colère, je ne reviendrai pas détruire, car je suis Dieu et non pas homme. Ce qui fait la différence, c'est que Dieu reste le Dieu de la vie, qui, au fond, redonne toujours la vie et ne détruit pas. Il ne veut pas, en tout cas, la destruction. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette idée que Dieu revient, Dieu continue, Dieu reste fidèle à son alliance. D'où aussi cette idée qui revient sans arrêt, mais qui est Dieu comme toi? Voilà. Le nom de Michée, du prophète Michée, c'est qui est comme Dieu? Mikéia. Qui est comme Dieu. Le deuxième point qui est dans la suite du premier, c'est la notion que moi j'ai trouvée extraordinairement intéressante et difficile de la justice de Dieu. Et j'insiste sur cette justice de Dieu avec par exemple l'affirmation de Sophonie, au milieu de la ville, Dieu est juste. Voilà, au milieu de la ville, Dieu est juste. Alors, première chose, on élimine tout de suite une théologie de la rétribution manifestée par la prospérité et la réussite. Pas le Dieu de Trump, s'il vous plaît, je suis riche et victorieux, c'est que Dieu est content de moi et me récompense. Je suis pauvre, malheureux et vaincu, c'est que j'ai mal agi et Dieu me punit. Bon, ça, voilà. Il faut faire attention parce qu'il y a des endroits dans les prophètes où on a l'impression qu'on lit ça. Hein. C'est parce que tu as péché que tu es puni. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, le prophète. Il est en accord avec cette affirmation-là, non pas parce que Dieu punit, mais parce qu'il sait que les conséquences de la méchanceté humaine sont inéluctables et qu'elles vont arriver. Donc, la théologie de la rétribution, elle est mise en question, et elle est, on le redira, définitivement mise en question par Job, mais aussi dans le prophète par Jonas. En même temps, il y a une affirmation, Dieu est juste, et il y a une exigence qu'on a lue dans le livre de Michée, il faut respecter la justice et le droit. Alors, la justice et le droit, c'est deux mots qui font corps dans beaucoup de textes bibliques. C'est ce qui est demandé au roi dans le Deutéronome, déjà dans Genèse 18. Dieu dit, je vais parler à Abraham parce qu'il doit apprendre à ses fils et à sa descendance à respecter la justice et le droit. C'est ce qui assure la vie et la survie d'un peuple selon le désir de Dieu. Alors, on peut se demander, parce que la justice et le droit, ils ont varié, il y a des droits qui sont iniques, il y a des justices qui sont iniques, et Amos passe son temps à les dénoncer. D'où ça vient cette idée de la justice et du droit? C'est une exigence, bien sûr, profondément ancrée quand même, l'indignation, semble-t-il, est quand même quelque chose de profondément ancré dans la conscience humaine, l'indignation devant le mal. Et on le voit bien chez ces prophètes. La tradition d'Israël et les prophètes considèrent que c'est d'abord Dieu qui met au fond du cœur de l'homme ce qui est sa façon de faire vivre l'humanité, la justice et le droit. Cette exigence de morale de la conscience humaine, elle est d'abord ce que Dieu a déposé dans le cœur humain. Et donc, c'est présenté comme une exigence de la loi. Ça va? Une exigence de la loi parce que, eh bien, cette loi que je dois suivre, au fond, ça répond quelque part, malgré les couches de refus et d'opacité que j'ai essayé de mettre dessus, à quelque chose de profondément inscrit, en tout cas, c'est ça que croit, je crois, la tradition d'Israël dans le cœur humain. Et on voit bien, du coup, que cette exigence de la justice et du droit, qui est essentiellement quand même condensé dans le décalogue. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne feras pas de faux serments, etc. Tu ne t'empareras pas. Elle est étroitement liée à la révélation du nom de Dieu. Parce que c'est ça, la volonté de Dieu. Vous voyez, il y a une espèce d'aller-retour. L'exigence vient de Dieu et ensuite elle ressort du cœur humain qui la transpose autant que possible en justice et en loi. C'est pour ça que, bon, Je me disais finalement, on a la justice de son Dieu et le Dieu de sa justice. Plus la notion de la justice est haute, plus la figure de Dieu est haute. Et avec le fait que comme nous tordons toujours, nous pervertissons toujours le droit et par derrière parfois la justice, c'est bien l'image de Dieu qu'il faut sans cesse corriger. Et c'est à ça que nous appellent aussi les petits prophètes, hein, toujours corriger l'image de Dieu en regardant autrement. Parce que c'est un Dieu qui veut que l'être humain soit à son image, qui est fait à son image, soit respecté comme tel. Voilà. C'est pour ça que c'est un Dieu de miséricorde et de pitié, parce que c'est un Dieu qui respecte l'être humain à son image. Alors la justice humaine, elle exige que le coupable soit puni. Elle va projeter ça sur la loi de Dieu, la volonté de Dieu. La vision, elle est en même temps consciente que ça reste qu'une partie de la vérité, que ça reste qu'une partie de la façon dont Dieu, beaucoup plus grand que ça, voit l'humanité. Donc, il n'y a pas l'idée, une exigence que Dieu punisse. Les malheurs de l'histoire, même si ça apparaît souvent comme ça, comme un châtiment de Dieu, ce n'est pas la volonté que Dieu punisse l'ennemi. C'est l'occasion d'une dénonciation de tout ce qui se passe mal et d'une prise de conscience. Voilà. Une prise de conscience, la prise de conscience de l'indignation de Dieu qui doit être la nôtre aussi en miroir devant les injustices et les inéquités humaines. Je crois que c'est ça les prophètes. Ils essayent de montrer que c'est l'occasion, les malheurs de l'histoire, d'une prise de conscience de l'iniquité humaine. Eh bien, Dieu s'en indigne et nous devons nous en indigner avec, parce que ben, la folie humaine, elle va toujours vers l'idolâtrie, parce qu'elle va toujours vers diviniser son propre ego, sa propre violence. Alors les idoles de l'époque, c'est les dieux de la nature. Mais ça, pour le coup, c'est universel. Hein. La divinisation de ma volonté, de toutes les fausses divinités qui nous entourent, l'argent, le pouvoir, etc., je ne vous fais pas de dessin, ça se lit du point de vue biblique en termes d'idolâtrie. Et c'est ça qui est dénoncé. Une espèce de fascination pour les idoles humaines. C'est ça qui est dénoncé, c'est ça qui mène à la catastrophe. Parce que pour les prophètes, c'est bien en divinisant et en créant ses propres idoles et en s'auto-idolâtrant que l'humanité a perdu le lien juste avec Dieu, le Dieu créateur et sauveur. Et je crois que c'est pour ça que Paul dit, il n'y a qu'un seul Dieu, mais il y a beaucoup de dieux et d'idoles. Il y en a plein. On s'en crée tous les jours. On s'en crée tous les jours. Mais voilà. Il faut d'abord revenir au Dieu un, qui veut l'être humain à son image, dont la tradition juive va dire, mais ça répond à ce que je vous ai dit là, il s'assoit sur le trône de la justice parce qu'il faut condamner la perversion de cette justice et le mal, et puis sur celui de la miséricorde, parce que sinon l'humanité ne subsisterait pas. Il a frappé, dit Osée, il pansera nos plaies, au troisième jour il nous relèvera et nous vivrons en sa présence. Il ne faut pas y voir à la foi en la résurrection, mais bien cette idée que Dieu ne veut pas la perversion que l'humanité fait subir à se donne à elle-même, et au contraire veut sans cesse la relever pour qu'elle vive en sa présence. Alors, ce passage, qui je crois être un peu un nœud chez les petits prophètes, de la justice à la miséricorde, la justice pour lutter contre le mal qu'il faut faire disparaître. La miséricorde pour que l'humanité survive et pour que la vie continue et triomphe. Prend comme figure, je crois, et c'est mon dernier point, après je cesse de vous accabler, chez les petits prophètes, la figure amplifiée, c'est le jour du Seigneur. Voilà. Le jour du Seigneur, Dieu qui se bat contre le mal et prend pitié du malheureux. Alors là aussi, il faut pas aller trop vite. Alors l'expression est très 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 présente. Hein. Bon, les chiffres n'ont pas d'importance, mais c'est plus de la moitié des occurrences de cette expression le jour du Seigneur dans l'Ancien Testament sont chez 12 prophètes. Ça veut dire qu'il y a une concentration incroyable. Il y a des formes approchées en ce jour-là, le jour de voilà, le jour où il intervient. Mais c'est énorme comme concentration. Bon, ce jour du Seigneur, il est connu surtout à travers le texte de Sophonie 1:7, qui dit jour de colère, jour de malheur. Hein, jour de colère que ce jour-là, qui a été traduit en latin et qui a fini par être mis en musique au XIIIe siècle par Thomas Zoditano, le Dies Irae. Alors, on l'entend plus beaucoup dans les églises. On l'a quand même dans le Requiem de Mozart et c'est magnifique. Je suis désolée, il est quand même là. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce jour de colère, que ce jour-là, qui est très marqué d'ailleurs par dans la traduction, dans le latin, par aussi un apport païen, parce que c'est David et la Sibylle. Donc on voit bien que ça rejoint aussi des craintes qui viennent d'ailleurs. Il faut d'abord, pour l'approcher chez les prophètes, les 12 prophètes, renoncer à ce qu'en a fait la pastorale chrétienne de la peur. C'est-à-dire ça, le jugement de camp, avec ceux qui sont à la gauche, qui sombrent dans les horreurs de l'enfer et des souffrances, et ceux qui sont à droite, qui ne sont pas encore très réjouissants, mais même Charlemagne arrive la tête basse vers le Seigneur. Bon. Alors, ce n'est pas ça qu'on a dans les petits prophètes. Je crois que ce jour du Seigneur, tel que Sophonie, Amos aussi, le présente, c'est bien l'idée d'une intervention de Dieu dans l'histoire pour détruire l'injustice et le mal et renouer l'alliance rompue avec les humains, avec le peuple, mais aussi avec l'humanité. Il y a donc une ambivalence de ce jour, parce que c'est le combat de Dieu contre les forces du mal. Évidemment, c'est un jour terrible. Ça sera repris dans les grandes visions de l'Apocalypse. Évidemment, c'est un jour terrible. En même temps, c'est la victoire de Dieu. Donc, c'est un jour d'espérance. Voilà. Alors, dans les grands moments terribles, de grands désastres de l'histoire d'Israël, évidemment, c'est à ça que les prophètes font allusion, à cette idée que, voilà, le jugement va frapper aussi un jour l'envahisseur inique, que Dieu relèvera son peuple. Ça n'est pas tout de suite, mais c'est toujours quelque chose qui structure l'ensemble de leur texte. Voilà. Je te délivre en te punissant, mais ce n'est pas une punition. Je te décape de cette attache du mal qui t'embourbe, et en ce jour-là, je te reprendrai, je te fiancerai à moi pour toujours, Amos, ce jour-là, je relèverai la hutte coulante de David, etc. Et ça, c'est systématisé dans la grande liturgie du prophète Joël, le peuple qui revient vers Dieu et Dieu qui répand son esprit sur le peuple. Hein. En ce jour-là, tous prophétiseront, les vieillards et les jeunes, les femmes et les hommes, les esclaves et les maîtres, c'est repris dans les actes des apôtres. Hein. Voilà. Le jour du Seigneur, c'est ce jour de renversement où Dieu vainc le mal. Avec effectivement le fait que ça, c'est facile à dire, mais que d'abord, cette victoire sur le mal, il faut la traverser et que ça prend du temps et qu'on est toujours dedans 2000 ans après. On peut toujours dire et on le croit que le combat a été gagné sur la croix, mais enfin, on est quand même dedans, plongé dedans. Le mal n'en finit pas de mourir. Et donc, les prophètes restent en même temps affirmant une espérance et prudent. Prudent parce qu'il y a la liberté de Dieu, parce que la méchanceté humaine peut aussi triompher. Voilà, au-delà d'un temps de malheur et de silence, peut-être Dieu se repentira-t-il. On voit bien qu'ils ont une conscience aiguë de l'infidélité humaine. Demandent souvent les prophètes, à moi c'est très fort là-dessus, savoir se taire et méditer. Et le temps se prolonge parfois terrifiant. Car c'était un temps de malheur, un deuil et un temps d'amertume, comme le deuil d'un fils unique. Les évangélistes s'en souviendront. Voilà. Je ne sais pas si vous avez lu le très joli petit livre de Robert Badinter sur sa grand-mère Idriss, qui va mourir à Paris en 1942, eh bien au moment où commencent la persécution et les rafles. Et le livre se termine au moment où on se sépare. Ceux qui ont pu venir à l'enterrement de la grand-mère, on se sépare pour aller se cacher et on se tait car c'était un temps de malheur. Et il s'arrête là. Et sur la page d'en face, vous avez la liste de sa famille, de ceux qui ont disparu à Auschwitz-Birkenau. Voilà, il y a des moments d'histoire où on se demande si Dieu ne s'est pas tu définitivement. Et les prophètes lance toujours, ouvre toujours une brèche. Peut-être, qui sait, il se ravisera. Peut-être aura-t-il encore du miséricorde. Peut-être laissera-t-il une bénédiction, etc. Alors, il y a toujours ce double mouvement qui est très présent. Alors là, je termine en disant que finalement, c'est ce que disent nos deux dames là qui ont fait le petit cahier évangile. Elles pensent, je vous le propose, c'est intéressant, que la figure du Dieu que le jour et les prophètes, les petits prophètes proposent, c'est celle d'Exode 34, la seconde montée de Moïse auprès du Seigneur pour avoir seconde version des tables de la loi, où Dieu se révèle lui-même en disant, je suis le Seigneur, Dieu de tendresse et de bonté, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté, qui reste fidèle à des milliers de générations. Enfin, fidèle à des milliers de générations. Qui supporte la faute, la révolte et le péché sans rien laisser passer, qui poursuit la faute des pères chez les fils et les petits-fils sur 3 ou 4 générations. Cette espèce de disproportion entre la miséricorde qui est dite avant et la nécessaire punition, purification qui est dite après, et que les fautes des pères pèsent sur les fils et les petits-fils, on est bien placé pour le savoir. Voilà. Ça dit quelque chose de cet effort pour entrer dans la vision du Dieu avec nous des 12 prophètes, avec l'appel de Joël, revenez à moi de tout votre cœur, et par-dessus tout, l'idée que Dieu est toujours, nous dépasse toujours. À quel Dieu te comparer? Dit Michée, il se plaît à faire grâce. Je termine en disant que ces prophètes sont vraiment des hommes qui affirment leur espérance, une espérance invincible, mais qui surgit du fond d'une abîme, du fond d'une détresse qu'on traverse. C'est le psaume de Jonas dans le ventre du poisson, c'est la vision de Joël 3, l'esprit répandu sur tout le peuple, et c'est l'affirmation dans Michée, c'est très intéressant, tu accorderas à Jacob ta fidélité, ton amitié à Abraham. C'est ce que tu as juré à nos pères depuis les jours d'autrefois. Je ne sais pas si ça fait écho pour vous, mais c'est exactement ce qu'on va retrouver au début de l'évangile de Luc, dans le fameux cantique, dans le chant de louange du père de Jean-Baptiste au Zacharie. Amour que tu as montré à nos pères, mémoire de ton alliance sainte, serment juré à notre père Abraham. Il reprend exactement ça. Hein. Voilà, la fidélité de Dieu, Dieu est le fidèle qui n'abandonne jamais, et concurremment, on a un peuple qui ne renonce jamais à son espérance. Et c'est ça, au fond, la force de ce peuple. Alors, je dirais qu'il y a aussi un peu deux réponses dans les prophètes, que, pas deux réponses, ou deux attitudes que je voudrais mettre en valeur pour terminer. D'abord, il y a une réponse du sage. Il y a à la fin du livre d'Osée, la prudence du sage. Qui est assez sage pour discerner ces choses, assez intelligent pour les connaître? Paul reprendra ça hein, en Romains 11. Et puis, il y a la réponse, j'allais dire celle qui est celle de l'humour de Dieu. Car Dieu est libre. Et le petit livre de Jonas, vous allez terminer le parcours par le livre de Jonas, c'est pas seulement la jolie histoire qu'on raconte aux enfants d'un petit garçon dans le ventre du gros poisson qu'il a recraché sur le rivage. Le livre de Jonas, c'est vraiment, comment dire, l'humour de Dieu qui met en crise la figure du prophète et toutes les théologies qui essayent de comprendre quelque chose à l'action de Dieu. Voilà. Le prophète Jonas, c'est un prophète qui râle tout le temps et que Dieu maltraite tout le temps et qui Dieu va lui faire accomplir sa mission quoi qu'il arrive. Mais Jonas continuera à râler, à ne rien y comprendre. Et Dieu se moque de lui en lui disant, toi, tu as pitié d'un ricin. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, où il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne sont pas capables de distinguer leur droite de leur gauche. Et quand le prophète écrit ça, quand Jonas est écrit, Ninive est détruite et a disparu depuis au moins 200 ans, 150 ans. Voilà.
Oui.
Dieu est libre. Dieu est libre et ça met en crise toutes nos représentations de Dieu. Moi, je trouve que c'est assez génial du point de vue de l'humour que ce petit livre. Voilà, j'ai trop parlé. Et donc, maintenant, dans le quart d'heure qui nous laisse, reste, puisqu'on avait dit 7h, 8h15, voilà, Jonas dans sa baleine, dans son poisson. C'est très joli. Je vais vous donner la parole. Je vais vous rendre le micro. Je vais vous donner la parole. Voilà. Alors, il faudra un petit peu de discipline. Vous pouvez rouvrir vos micros s'il y a des questions ou des réactions à tout ce que je viens de vous raconter. Alors, je ne peux pas vous voir tous à la fois. Donc, il faut que ceux qui veulent poser une question se manifestent en parlant un peu fort.
Je peux poser une question, Roselyne? Vous m'entendez?
Oui, je vous entends.
Bon.
Et vous êtes, qui c'est qui parle? C'est Françoise?
Françoise Mosser.
Merci, Françoise, oui.
Quelles étaient les
Non.
audiences, les auditeurs, les voies de communication
Pardon.
des prophètes? Est-ce que c'était des gens qui étaient dans le cercle du pouvoir? Est-ce qu'ils avaient un
Je n'ai pas
pouvoir
posé de question.
politique?
Allez-y, allez-y, oui.
Est-ce que c'était ou parce que le prophète petit berger qui tout d'un coup a une lumière et qui s'exprime, on n'y croit pas 2 secondes.
Non, il ne faut pas y croire.
Voilà. Donc,
Parce
qu'est-ce
que ce
qu'ils
n'est pas
étaient
ce que dit
ces
le
hommes?
texte. Alors, bon, il y aurait peut-être des différences, hein, il y a sûrement des différences entre chacun de ces prophètes. En gros, quand même, et c'est vrai, d'Isaïe surtout, de Jérémie aussi, et d'Ézéchiel, ce sont des hommes qui sont des lettrés et qui sont dans les cercles du pouvoir. Ézéchiel était un prêtre, par exemple, et les prêtres avaient un grand pouvoir. Voilà. Isaïe est un conseiller royal qui conseille les rois depuis 720 jusqu'au début du 7e siècle, jusqu'à 690. Jérémie maille à partir avec les rois d'Israël, mais parce qu'il est d'abord dans les proches, dans la mouvance du secrétaire particulier de Josias, Chafan. Voilà. Donc ce sont des hommes qui ont une vraie audience politique auprès des grands, du pouvoir, des prêtres, etc. Quelqu'un comme Amos n'est pas un petit berger que Dieu a pris derrière son troupeau. On ne sait pas trop bien traduire, mais on a bien identifié que ce pinceur de figues, c'est des gens qui possédaient des troupeaux importants. Voilà, il devait avoir un troupeau de bœufs important. Et quand il vient dans le royaume du Nord, c'est quelqu'un qui est capable de s'affronter aux prêtres et aux rois derrière, et donc de parler. Il y en a beaucoup dont on ne sait à peu près rien. Mais voilà au moins pour ceux qu'on connaît ou dont on sait quelque chose. De toute façon, ils ont une capacité de maniement de la langue, Habacuc, mais par écrit, pour produire des images qui font d'eux des poètes. Et des lettrés, c'est évident. Ne sais pas si j'ai répondu, mais je crois qu'il faut. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Non?
Oui, pardon, c'est
Oui?
Vincent, j'ai une question. Est-ce que vous avez un commentaire par rapport à l'évangile du jour, l'évangile de Saint-Luc? Quel malheur pour vous parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes?
Oui, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez situé là aussi en contexte. C'est quand même l'idée. Alors, la tradition, Luc c'est plus tard, hein, c'est quand même vers 80, il reprend là des vieilles traditions. La tradition à l'époque de Jésus s'était beaucoup développée autour, j'allais dire, de l'hagiographie des prophètes. Les prophètes devenaient des gens qui avaient une grande proximité avec Dieu, ils l'avaient, mais qui étaient des héros pour le peuple, qui s'étaient toujours heurtés aux puissants de ce monde, et la tradition voulait, et on commençait à raconter l'histoire, que les prophètes avaient toujours été martyrisés. Nul ne sait, en lisant le texte d'Isaïe, comment Isaïe meurt, mais à partir du 1er siècle, on savait très bien, Isaïe est mort supplicié sur une roue. Voilà, parce qu'on s'est mis à raconter. On s'est mis à raconter le fait que les prophètes toujours s'opposent aux puissants de ce monde et qu'ils ont été martyrisés, et donc on élève des tombeaux aux prophètes. Et l'attaque, la dénonciation par Jésus ou après, mais enfin bon, qui est peut-être par Jésus, c'est « vous êtes des hypocrites ». Vous honorez les prophètes, mais en réalité, dès qu'un prophète se lève, vous le mettez aussi à mort. Voilà. Et Jésus s'inscrit dans la droite ligne des prophètes. Vous les supportez en leur bâtissant un tombeau, en leur mettant des auréoles. J'actualise, hein. En leur mettant des auréoles et en racontant la force de leur témoignage. Mais en réalité, si un prophète parle aujourd'hui, vous le faites disparaître le plus rapidement possible. D'où Jean-Baptiste, et voilà. Hein. Je crois que c'est ça l'idée. Mais c'est vrai que là, les légendes, oui, enfin ce qu'il faut raconter, autour des prophètes se sont multipliées, sûrement au courant du premier, deuxième, premier siècle avant Jésus-Christ et après, d'où l'idée, le sang des prophètes versé entre l'autel, voilà. Hein. Les prophètes sont des modèles d'opposition aux puissants de ce monde, qu'ils soient politiques ou religieux, et qui ont mal fini, évidemment. Est-ce qu'il y a une autre ou un point d'éclaircissement ou une réaction? Catherine, il faut ouvrir ton micro. Non, ton micro.
Ok.
Ça y
Est-ce
est.
qu'il y a eu des liens entre les grands prophètes comme Jérémie, Isaïe et Ézéchiel et les petits prophètes? Parce que j'ai l'impression, d'après ce que tu dis, que les périodes à certains moments étaient les mêmes.
Oui, on ne sait pas bien. On ne sait pas bien. Il y a une chose qui est claire, c'est que au moment de la prise du siège de Jérusalem en 701, Michée n'a pas le même point de vue que Isaïe. Isaïe dit, on tient bon, il faut que l'Assyrien se retire et on tiendra bon, le Seigneur te défendra. Michée a plutôt une attitude prudente. Et il semble bien, à un endroit ou à un autre, dire on pourrait négocier plus facilement. Voilà. Non, ça, je ne sais pas et c'est pas clair. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des images communes. C'est qu'il y a des traditions littéraires qui passent des uns aux autres. Voilà. Du point de vue littéraire, et donc on sait bien qu'il y a des écoles. Alors, est-ce qu'il y a des prophètes qui ont appartenu à la même école? Certainement que ce qu'on appelle le deuxième Isaïe, et encore plus ce qu'on appelle le troisième Isaïe, c'est une école qui a été représentée par plusieurs personnages qui gardaient dans leur. Dans leur arrière, dans leur patrimoine, et qui méditaient sur les textes précédents d'Isaïe. Donc il y a eu des écoles et des courants prophétiques. Mais les liens entre les 12, non, je ne vois pas. Il y en a sûrement, c'est pas. C'est plutôt par des thèmes et des images qui se ressemblent qu'on peut voir qu'on est bien dans la même mouvance. Je crois pas qu'il y ait eu de propositions, de thèses allant dans ce sens jusqu'ici.
Et c'est une tradition orale aux Zénites.
Alors, ça, c'est pas si sûr. Bien sûr, c'est une tradition orale au début. C'est sûr que Amos et Osée, c'est une tradition orale.
Mais c'est très ancien.
Mais ça a pu se mettre quand même par écrit parce que c'était des lettrés. On voit bien qu'Isaïe, au personnage de la cour, pouvait très bien dicter ce qu'il disait. Et puis, il y a cette phrase à Habacuc, prend et écrit.
Oui, c'est
Et
vrai.
avec Jérémie, dans l'histoire de Jérémie, on voit bien que Jérémie écrit le rouleau, puisque il y a le roi Joachim qui lui brûle son rouleau. Vous
Oui,
savez, le
oui.
roi qui déchire le rouleau à mesure et qui le brûle. Et Dieu qui dit à Jérémie, recommence, dicte à Baruch et tu vas tout réécrire. Alors, je ne sais pas s'il a tout réécrit ou si le roi n'avait pas tout brûlé. Mais ce sont des marques du fait qu'à cette époque-là, on est autour de 600, 608, 607, et Habacuc peut-être un peu plus tôt, 620, ça passait aussi par l'écrit. On consignait les oracles des prophètes. Moi, je pense que ça a dû commencer aussi avec Isaïe, parce qu'il y avait quand même une cour, des gens lettrés, une vie intellectuelle certaine. Il y a des choses qui ont dû être mises par écrit.
Et est-ce qu'on sait en quelle langue?
Ah ben en hébreu.
Ah, en hébreu.
Tout est en hébreu. Ah oui, alors là c'est clair, tout est en hébreu. Tout est en hébreu. Les traces d'araméen, elles sont dans le livre de Daniel, et là on n'est plus vraiment dans la prophétie, là on est un... voilà, on est vraiment dans l'apocalyptique. Et après, ben évidemment, après c'est traduit en grec, mais l'Isaïe n'est pas traduit en grec avant, je pense, le milieu du 3e siècle ou au début du 2e, avant Jésus-Christ, et tout est en hébreu. Hein. Alors, au retour d'exil, Jonas, Joël, bon, ça peut poser problème parce que clairement, le peuple parlait araméen. Les gens ne savaient plus l'hébreu. Et on voit bien dans la grande proclamation de la loi par Esdras dans le livre de Néhémie, hein, au chapitre 8, qu'il fallait des gens pour traduire. Voilà. Ça a donné ensuite le Targoum, les méturgemanes qui traduisaient à mesure. Mais dans les cercles lettrés, dans les cercles qui gardaient la loi, et donc je pense ces prophètes-là, on écrivait en hébreu. Jonas, c'est en hébreu.
Mais ils n'ont jamais utilisé la langue des envahisseurs.
Mais l'araméen, non, en fait, c'est un peu l'inverse qui se passe. C'est-à-dire, il y a eu des langues qui sont devenues des langues communes, des langues diplomatiques et des langues des marchands. Et il y a deux langues, ça c'est assez impressionnant, il y a l'araméen, on l'appelle l'araméen d'Empire, qui a certainement été la langue qui s'est imposée probablement même à Babylone. Autour du 7e siècle, 6e siècle, au moins dans ce qui est la diplomatie et dans ce qui est le commerce. Parce que c'était quand même des commerçants, hein, c'était des gens qui bougeaient tout le temps. Les empires assyriens et babyloniens, c'était des grands empires. On allait en Égypte et on voit bien que l'araméen s'est beaucoup développé et étendu comme langue de la diplomatie et du commerce. Si je ne dis pas de bêtises, alors c'est un peu plus tard, c'est au 6e siècle, 5e siècle, les Juifs d'Éléphantine écrivent au pouvoir perse en araméen. Alors quand après ça on a les Perses, eux c'est vraiment l'araméen qui partout, Darius, hein, les Darius, les Cyrus, les Cyrus Darius Xerxès, Artaxerxès, les Perses qui sont allés embêter les Grecs après. Cela, la langue diplomatique et la langue auxquelles on s'adressait, si on voulait déposer une plainte, hein, c'était l'araméen. Et après, à partir de 330-300, vous avez Alexandre qui couvre tout et qui partout fonde des Alexandries, des bibliothèques, impose une hellénisation impressionnante, parce que ça va très vite, et les successeurs d'Alexandre seront des Grecs. Et à ce moment-là, c'est le grec qui devient la langue commune, la langue diplomatique et la langue des marchands. Voilà. Et ça, mais ça, c'est après 300, autour de 330, 300. Donc, tout a été en gros et déjà écrit en hébreu, sauf peut-être. Voilà. Alors, l'hébreu reste la langue sacrée, enfin, si, la langue religieuse. Voilà. La langue du livre auquel on se réfère. D'où, dans le livre de Daniel, l'essentiel en hébreu, et puis la lettre qu'on écrit, on l'écrit en araméen. Il y a très peu de choses dans la Bible en araméen. Donc, en fait, c'est assez impressionnant. Ce sont des langues qui se sont imposées comme langue commune pour la diplomatie et le commerce, essentiellement. Alors, le grec pour la culture aussi, hein. Parce qu'ils ont fait des politiques d'hellénisation à outrance et jusqu'à Rome, hein. Et après, le latin remplacera petit à petit, mais en Orient, le grec subsistera. Non, vos petits prophètes sont en hébreu, on les traduit après, mais ils sont en hébreu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Réactions, remarques, revendications? Non.
Merci, moi surtout.
Eh bien,
Merci.
alors écoutez, je vous remercie de votre attention. Donc, maintenant, je vous mets entre les mains de vos